À l'occasion de l'exposition personnelle de Caroline Backman, Le Matin, au Crédac, une exposition en partenariat avec le Centre culturel suisse à Paris, Caroline Backman, artiste, et Paul Bernard, directeur du Kunsthaus, centre d'art Pascard à Bienne, discutent de la pratique de l'artiste suisse. Il sera question des différentes références chères à l'artiste, de son parcours artistique et de comment celle-ci est arrivée à la peinture.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous voir ou vous revoir pour certains qui revoient l'exposition. On est très heureuses et heureux de rencontrer aujourd'hui Caroline Backman, dont l'exposition se poursuit jusqu'au 17 décembre au Crédac et qui est donc un commissariat partagé avec Claire Hoffmann qui est là, qui nous fait la gentillesse d'être là cet après-midi. Dans le cadre d'un partenariat avec le Centre culturel suisse à Paris, donc le Centre culturel suisse est, comme vous le savez peut-être, fermé pour le moment pour travaux et donc se déploie dans beaucoup de lieux, à la fois en France et à Paris, région parisienne. Donc on a cette chance. Et dans ce contexte, on a ensemble visité l'atelier de Caroline Backman au mois d'août 2022. Et je dois dire que pour moi, c'était une rencontre, parce que je n'avais jamais vu le travail de Caroline Backman. Et donc, ça fait partie des visites d'ateliers que nous faisons comme commissaire d'exposition. C'était une très belle rencontre dans cet atelier qui est situé à Cuilly, près de Lausanne, et qui est situé dans un petit village, tout à côté du lac Léman. Ça, c'était la rencontre. Et puis ensuite, à la lecture d'un texte de Paul Bernard qui a été publié, je crois, à peu près au même moment, un texte que vous pouvez retrouver dans le catalogue personnel de Caroline Backman qui est à l'accueil, il nous a semblé intéressant de poursuivre peut-être les échanges que vous aviez eus ensemble pour l'écriture de ce texte, aujourd'hui en public à Ivry. Voilà, donc Paul, pardon, je ne t'ai pas présenté. Paul Bernard est directeur du Centre d'art contemporain Pascoir à Bienne, en Suisse, et a été longtemps conservateur au MAMCO, Musée d'art contemporain de Genève, commissaire d'exposition, et qui aussi écrit assez régulièrement pour des artistes, et notamment assez souvent sur la peinture, me semble-t-il, mais pas que. Voilà. Donc la parole est à vous. Donc c'est une rencontre sur le travail de Caroline Backman et peut-être tout autre chose puisqu'on commence à la gare de Bâle apparemment. Voilà, je te rends le micro, Caroline. Et à l'issue de cette rencontre, évidemment, il y aura un petit temps de parole pour ceux qui ont envie de poser des questions ou poursuivre la conversation. Merci à tous.
Merci Claire.
Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé un temps au MAMCO à Genève. C'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontré avec Caroline, qui a longtemps enseigné aussi à la HED, l'École des Beaux-Arts de Genève. Et en fait, on a vraiment commencé à discuter à la faveur du Covid, je dois le dire, puisqu'il y a un moment où, comme tous les musées, on ne pouvait plus rien faire au MAMCO, et on s'est beaucoup concentré sur notre collection. On a fait toute une exposition un petit peu en revisitant un peu notre collection, et puis au fond, c'était un moment où moi, je devais m'occuper d'une salle où on faisait un accrochage sur la peinture figurative, puisqu'effectivement, j'avais eu cette tâche dévolue de faire des trucs sur la peinture. Et puis, il y avait ce super beau tableau qui est dans l'exposition, d'ailleurs, qui appartient pas au MAMCO, mais au fonds cantonal, mais qui nous l'avait prêté, de Caroline. Et je me suis dit, mais avec quel autre tableau on peut le faire discuter? Et puis, en fait, ça a commencé comme ça, en me disant, mais il y a plein de... C'est un tableau qui dialogue avec beaucoup, beaucoup de choses, la peinture de Caroline. Et en fait, même dans les premières conversations qu'on a eues, il y avait toujours plein de références ou plein de peintres que je ne connaissais pas. Je ne suis pas suisse moi-même, je suis un Français expatrié depuis une dizaine d'années. Donc, il y a aussi des choses que j'ai découvert aussi à ce moment-là. Et en fait, je commence par ça, parce que ça, c'est une photo que j'ai prise ce matin en prenant le train. J'attendais mon train à la gare de Bâle, et puis en me disant, mais c'est quand même génial, on trouve de la peinture de panorama partout en Suisse. La peinture de gare est une peinture, enfin, c'est un genre en soi. Même la gare de Bienne, si vous ne connaissez pas cette charmante ville, à une salle d'attente qui était décorée par la famille Robert. Donc il y a toute cette tradition. Et en fait, je m'étais dit, je vais commencer par une question, parce que je ne sais pas si tu sais qui a peint ça.
Non, je ne sais pas. Je ne connais pas le peintre.
Est-ce que quelqu'un dans la salle... Comment ? C'est bien d'avoir des historiens de l'art.
Ouais. Lausanne.
Voilà, parce que c'était génial. C'est-à-dire que j'ai regardé ça, puis je me suis dit, ah, mais c'est une très bonne entrée en matière. Je prends le train, j'ai commencé par ça. Et en fait, c'est très compliqué de trouver des informations sur cette gare sur Internet. Mais je me réjouis, du coup, d'avoir la présence d'un bon historien de l'art. Et en fait, parce que si je partais de ça aussi, c'est parce qu'il y avait il y a quelques années au musée d'Orsay ici une super exposition qui s'appelait Modernité suisse, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Et Laurence Descartes, la directrice, faisait le constat que, au fond, à part Arnaud Pierre, il y a une certaine méconnaissance de la peinture suisse depuis la France, en tout cas sur la peinture justement qui est liée au paysage. Et je m'étais dit, c'était aussi l'occasion pour parler de ton travail de dans ce contexte-là, ici, au Crédac, en France, c'est ta première exposition d'envergure en France, d'évoquer un tout petit peu ce truc. Est-ce que ça, tu sais ce que c'est ?
Oui, je l'ai déjà vu.
Est-ce que tu sais que c'est la première peinture suisse qui a été achetée par le musée du Luxembourg ? Auguste Bovy, donc La fin d'un jour, de 1895, pardon, qui a été ensuite donné au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui était en dépôt au musée des Beaux-Arts de Lyon, remplacé par cet autre tableau qui s'appelle Sérénité, qui est une vue du lac Léman. On y arrive. Et j'ai par ailleurs appris que Auguste Bovy est aussi connu pour avoir peint un énorme panorama des montagnes bernoises, figure-toi, pour une exposition à Chicago. Un énorme panorama de plus de 100 mètres, si je ne dis pas de bêtises, qui était perdu dans une tempête. Sur un bateau, donc il n'y a aucune image. Il n'est jamais arrivé. Donc c'était, je me suis dit, ah, mais j'ai trouvé un autre panorama perdu. On n'a aucune image, il ne reste rien de ce tableau, mais enfin, la légende est sympathique.
Enfin, on voit Cuilly sur cette peinture de droite.
Qu'on voit, qui serait ici.
Oui, c'est exactement la pointe qui est là.
Voilà. Quelle entrée en matière. Et je vais continuer un petit peu dans le côté un peu chauvin. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lac Léman est bien sûr un classique de la peinture de paysage. Et vous savez peut-être qu'à Genève, au musée d'art et d'histoire, on se targue d'avoir la première peinture officiellement de paysage de l'art occidental, qui est cette pêche miraculeuse de Conrad Witz de 1444, où au fond, la scène biblique qui se passe au premier plan a à peu près la même valeur que le paysage qui est au fond, qui est d'un point de vue topographique complètement faux, parce que c'est, quand on est à Genève, on voit que ce n'est pas tout à fait articulé comme ça, mais vous avez la montagne qui s'appelle le Môle, ici, et les Voirons, ici. Il y a une espèce de mythe comme ça, hein, du paysage du Léman. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, et notamment sur le fait qu'il y a toujours c'est toujours des peintures un peu énigmatiques, où il y a toujours une espèce de secret peut-être à déceler dans ces peintures. Dans celle-ci, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits sur cette peinture, mais récemment, Dominique Radriziani, un historien de l'art, avait fait remarquer que, en fait, la courbure du Christ, ici, reprend la montagne qui se trouve là, et que la barque, ici, épouse quelque part en symétrie la montagne des Voirons, qui expliquerait peut-être pourquoi, justement, il y a ce réassemblage topographique. Dans cette... On arrive tout à fait au travail, hein. J'y arrive tout de suite. Mais c'est juste pour les non-initiés à l'art suisse ou au paysage suisse, quelques fondamentaux, quand même, quelques bases. Il y avait eu donc cette exposition qui s'était tenue d'ailleurs à Vevey, qui avait un joli nom, qui s'appelait Lémancolie, sur justement tous les artistes qui ont été fascinés par le lac Léman. Et dans cette exposition, il y avait notamment tout un chapitre qui était dédié à ça, étant donné l'œuvre iconique de Marcel Duchamp, étant donné la chute d'eau, 2, le gaz d'éclairage, qui est donc au musée de Philadelphie, je ne vais pas vous faire un cours ici sur cette œuvre, je pense, dans lequel se trouve ici, sur cette petite fontaine, en fait, un extrait, enfin, disons, une reproduction d'une chute d'eau qui se trouve là aussi dans les abords du lac Liman. Et en fait, on doit à Stéphane Bantz, à toi-même, la découverte un petit peu de cette...
Non, pas la découverte.
Je te laisse parler, vas-y.
Non, on l'a pas découvert. Elle a été redécouverte après que Marcel Duchamp lui-même l'ait perdue, parce qu'il a essayé de la montrer à sa deuxième femme. Il est retourné sur place et il l'a effectivement pas retrouvée, donc il savait plus lui-même où elle se situait exactement. Mais par contre, il y a un artiste balois, Félix Kellin, qui a pris l'initiative de chercher dans les années, je dirais 70, cette chute d'eau, et il a fait un travail de recherche extraordinaire, en parcourant la Suisse avec une photographie de la chute d'eau et son succès d'ailleurs, mais ensuite il a écrit 4000 lettres à 4000 communes avec la même photographie, jusqu'à que les communes environnantes de Chèbre lui répondent comme quoi cette chute d'eau était là. Donc c'est lui qui a redécouvert la chute d'eau, et nous on n'a fait que de trouver la note qu'il avait, parce qu'il a quand même fini par communiquer sa découverte à une ou deux personnes. Et ça a passé un peu à la postérité grâce à ça. Mais non, nous, on a simplement... La seule chose qui soit passée, c'est que quand nous, on est arrivés à Cuilly, on venait de déménager et on était en train de faire une peinture. On travaillait ensemble et on faisait une copie d'Étant donné. Donc, c'est la première peinture qu'on ait réalisée dans cet atelier dans lequel on venait de s'installer. Et puis, pour faire la peinture, on s'est un peu renseigné autour de l'œuvre. On a fait des recherches. On a découvert que cette chute d'eau était là. Et simplement, on a communiqué des photographies et les recherches qu'on a faites sur le lieu et les liens qu'ont ce lieu avec l'art au Philadelphia Museum of Art. Et c'était une coïncidence. Michael Taylor, qui était le directeur de la section de l'art moderne, était en train de terminer une monographie sur Étant donné. Il n'avait aucune information sur la chute d'eau, donc il est venu deux semaines après à Cuilly et... À cause de cette rencontre, on a organisé ce symposium.
Un colloque international.
Un colloque, oui, international, accueilli autour de la chute d'eau. Oui.
Et puis il en résulte justement ce gros livre, mm-hmm. de compilation, d'édition par Stéphane Bantz, mm-hmm. de toutes vos recherches quelque part liées à cette...
Il y a les recherches et les actes du colloque.
Voilà. Et si ça m'intéresse ça aussi, c'est qu'en fait, donc... comme vous l'avez très bien dit dans une série que vous aviez présentée, justement dans cette exposition qui s'appelait Les Mancolies, donc là on commence à voir que ton travail a d'abord été aussi un travail de photographie. Vous aviez réalisé cette série qui était donc de 100 photographies qui sont le point de vue qu'on a sur le Léman depuis la chute, à peu près.
C'est depuis Cuilly, mais c'est le point, disons, c'est une vue, c'est à peu près la même vue qu'on a depuis la chute d'eau. Si on tourne le dos à la chute d'eau, on voit le lac.
Voilà.
Et en fait, Duchamp a tourné le dos au lac pour photographier la chute d'eau. Ce qui était intéressant par rapport à tout ce qui s'était fait, Odler, Valeton, tout le monde avait parlé le lac.
Mais quelque part, justement, je trouve intéressant de voir que ton travail, il est aussi lié, il est très lié au lac Léman, mais quelque part, il y a toujours une partie conceptuelle dans ta peinture. Mm-hmm. Ça, je vais y venir plus tard. Et il y a évidemment une partie qui est très sensuelle, qui est marquée aussi par ces paysages complètement époustouflants la phrase de Duchamp, justement, le lac met sa robe de soirée. Enfin, il y a quelque chose.
Change
de robe toutes les heures. Quelque part, ton travail il se situe justement entre ces deux aspects. Il y a une fascination, on est ébloui par ce qu'on peut voir du lac, mais en même temps, il y a toujours une espèce de recul plus conceptuel de ta part. Je montre aussi, voilà, quelques exemples. Ça, c'est un peu les peintres stars du lac Léman, Kokoschka, Turner, Odler, Courbet, Valoton, qui parcourent le 19e siècle. Et puis, je vais passer directement sans transition à Echelmus, qui est donc présent dans l'exposition. Je vais revenir plus tard sur les autres peintres qui t'ont intéressé, mais ça, c'est un peintre que tu découvres justement en faisant tes recherches sur Marcel Duchamp. Je reviens sur la chute d'eau. Donc, vous voyez que cette construction, c'est un trou dans une porte, c'est comme un trou un peu de voyeur par lequel on regarde. Et ça, justement, grâce à tes recherches, tu découvres un peu l'existence de ce Echelmus qui va complètement te fasciner aussi. tu vas en acheter, tu vas en collectionner. Est-ce que tu veux dire un mot de comment tu es tombée là-dessus?
Je pense que ce qui a créé le premier lien, c'est que j'ai donc fait une recherche. J'ai décidé, après avoir terminé l'organisation du symposium, de faire un peu une recherche d'une peinture différente qui me permette de repartir dans une peinture figurative, mais qui soit moins explicite que ce qu'on faisait auparavant. Et j'ai commencé à chercher les artistes qui étaient autour de Duchamp à New York en 1917. Et là, je pense qu'une des premières peintures que j'ai trouvées quand on clique Google, c'est vraiment une recherche complètement basique, je suis tombée sur une des peintures qui est là dans l'exposition, où on voit une femme nue sur un rocher à côté d'une chute d'eau. Et ça faisait 3 ans qu'on bossait sur étant donné, et cette peinture, c'était étant donné. C'était tellement incroyable comme coïncidence visuelle que je me suis dit, oui, c'est un signe, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc ça m'a poussée à approfondir la recherche sur ce peintre. Et plus j'ai gratté, plus je trouvais ça intéressant. Et ça, effectivement, il m'a complètement fascinée.
Et comme toi et Stéphane, vous êtes aussi d'une nature un peu obsessionnelle. Vous avez aussi fait un énorme catalogue sur
Ça, c'est Stéphane qui l'a réalisé. Une année plus tard, on a fait un voyage. Et là, il a été pris par cet artiste et cette proposition aussi. Et il s'est dit qu'il allait faire un livre. Il a fait ce livre tout seul.
Voilà. Ouais. Qui est un livre qui est devenu le livre de référence sur Hetchelmus, qui est à peu près épais comme ça. Mm-hmm. Enfin, voilà. Un énorme travail. Donc évidemment, vous voyez pourquoi l'intérêt aussi de ce peintre par rapport à ton travail, cette façon justement de mettre tes paysages dans des cadres plus ou moins clairs, plus ou moins définis. Il y a presque une citation un peu de Hetchelmus, mais en fait, quand on fait un peu plus de recherche sur ton travail, on s'aperçoit que la notion de cadrage ou de recadrage ou de fragmentation est quelque chose qui apparaît dans ton travail il y a beaucoup plus longtemps, dans une autre vie presque, dans une vie où tu n'étais pas peintre, où tu étais plutôt une artiste conceptuelle, photographe. Ici, on a deux œuvres, donc une qui s'appelle très justement Cadrage de 1997. Vous avez un dessin, ça j'ai pris ça en photo dans ton atelier, parce que tu as toujours des très jolis schémas aussi, très clairs, qui vous explique un petit peu le fonctionnement de cette pièce. Donc une image est projetée sur un écran qui du coup cache l'autre écran. Et puis une autre œuvre. Avec mon plus bel allemand, Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Zwischenwir, que l'on traduira par « car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir ». C'est des œuvres que tu fais alors que tu es à Rome. Donc tu as beaucoup voyagé aussi. Tu as eu des multiples d'autres vies, disons, avant de revenir t'établir à Cuilly. Et c'est pas inintéressant de ce que ça dit aussi de ce que tu fais à Rome aussi à ce moment-là. Est-ce que déjà tu veux dire quelques mots peut-être sur ces œuvres-là?
J'ai l'impression de faire un saut spatio-temporel absolument incroyable. Oui, effectivement, je pense qu'il y avait, il y a tout. Je crois que le premier travail que j'ai fait, en fait, officiellement, comme après avoir été invité à faire une exposition, en fait, c'était une performance où je projetais une lumière extrêmement forte dans une salle noire, comme dans un théâtre, et la lumière s'éteignait. L'œuvre, c'était le rectangle rétinal qui était dans... Et je pense que ça a été un peu à la base de tout mon travail. Cette relation entre ce qu'on voit, ce qu'on voit dans la mémoire et ce qui est restitué et ce qui disparaît. Donc, dans tous les travaux, il y a quelque chose qui est de l'ordre du flou, de la disparition, de l'oubli, et puis de la résistance, de ce qui continue à exister, et qui va tenir, disons, dans le temps, ou qui va tenir dans la mémoire, mais en même temps, j'ai toujours l'impression que ce qu'on oublie existe encore. Donc il y a vraiment cette tension entre... c'est pas une hiérarchie, disons, qui prétend donner une existence à certaines choses et pas aux autres. Au contraire, j'ai l'impression que ça remet tout dans le même plan. Donc là, effectivement, on voit le focus est fait sur le petit rectangle qui est suspendu à peu près à 1,50 m avant la projection. Hein, c'est comme s'il était à peu près là. Donc ce qu'on voit autour, l'image qui est autour, est floue. Et puis en plus, elle est percée d'un trou noir. Donc il y a une espèce de... enfin, ça me plaisait comme ça. Et puis, dans l'autre... donc,
attends, juste, ouais. Ça, c'est des photos, c'est des vues de rue.
Ça, c'est des vues. C'est assez... Les images ne sont pas très importantes, mais c'est des gens dans la rue, c'est au marché à San Giovanni di Dio, à Rome. Ouais. Et je ne suis pas une très bonne photographe, donc j'ai pris un peu des images comme ça. Mais en plus, c'était un temps où c'était tout des diapos. Hein, on faisait des... donc on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Hein. Et l'autre travail, il est plus construit comme thème, parce que c'est des images qui ont été prises au bord de la mer Adriatique, à Bari. Il y avait la guerre en Albanie, c'était un peu tendu. Enfin, il y avait beaucoup de... c'était très touchant, en fait, d'être là à ce moment-là. Et ce titre, il est issu, c'est la partie centrale du Requiem de Brahms. Donc c'est vraiment le moment où la vie sur Terre est mise en balance par rapport à la vie après la mort. Et cette ville dont on n'a pas la possession, qu'on n'a pas en fait, ce pays qu'on n'a pas et qu'on cherche, c'est l'axe qui donne toute l'attention de l'œuvre de Brahms. Donc, il y avait... en fait, cette œuvre, elle est assez compliquée à expliquer, mais j'avais à l'époque, il y avait des cassettes. Donc, c'est un enregistreur à cassette dans lequel il y a une cassette avec le Requiem de Brahms.
Qui est là, qui est sur le
chemin. Mais pas en entier. La partie centrale, on loupe. Et puis, sur quand on pesait sur le magnétophone, il y avait une petite tige collée sur ce qui entraînait la bande magnétique. Donc la tige, elle supportait un petit bateau plié en papier, comme font les enfants. Et ce bateau était à 1,50 m de la projection. Donc et le focus était fait sur le bateau. Donc on voyait en net ce qui était sur le bateau quand le bateau tournait, mais le bateau tournait en même temps que la musique. Enfin, voilà. Et puis derrière, il y avait le flou. Ça, c'est compliqué. Mais c'est toujours cette même évocation de...
oui. Il y a un rapport à l'histoire déjà qu'on commence à voir dans ce travail. Juste aussi une chose que j'ai pas précisé, c'est que à ce moment-là, quand tu es à Rome pour gagner ta vie, tu fais de la restauration de dessins.
Oui.
Et tu fais ce qu'on appelle des réintégrations.
Mmh, exactement.
Est-ce que tu peux dire un mot?
C'est intéressant. J'avais pas fait le lien, mais effectivement, j'ai eu la chance de trouver un travail à peine arrivé à Rome, alimentaire, dans un atelier de restauration sur papier. Et j'ai appris. D'abord, j'ai été engagée parce que je savais dessiner. Donc, on m'a demandé de refaire à l'aquarelle les parties manquantes dans les gravures. Donc, je devais faire de la fausse gravure à l'aquarelle sur du papier qui avait été ajouté. Hein. Je vous rassure, je ne suis jamais intervenue sur les originaux. Et puis, petit à petit, j'ai appris à justement remplir ces trous avec du papier japonais où on fait des formes et on colle, on tire les fibres, machin, etc. Voilà, ça, c'était mon travail, effectivement. Remplir des trous.
Remplir des trous. Mais donc, cette idée aussi de la fragmentation et du recadrage, ouais. C'est aussi quelque chose que tu fais de manière très... presque artisanal, quoi.
Mais surtout, c'était un travail très lent. Et ça me plaisait déjà beaucoup.
une autre série... alors, oui, ça, j'avais... une autre série de pièces. Ça, tu fais ça, tu es toujours à Rome, quand tu fais ça aussi, ouais. Les géantes.
Ça, c'est aussi toutes les photographies. Ça, c'est le début de Photoshop.
Ouais.
Parce qu'après, tous mes découpages... j'ai pas mal travaillé avec ces trous, ces collages, ces découpages, ces recadrages, mais de manière... en bricolant sur des photographies, des tirages, des agrandissements, parce qu'il n'y avait pas... enfin, tout était fait manuellement. Et un jour, j'ai reçu un ordinateur. Et ça, c'était super. À part qu'on faisait une sélection et on avait le temps de se faire des pattes avant que la sélection soit efficace. Mais c'était quand même pas mal. Quoi. Donc, ça, c'est le premier travail fait à l'ordinateur.
Voilà. Et ça, l'ordinateur, on verra évidemment même la luminosité de l'écran est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ton travail. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Je reviens juste aussi parce que ça, c'est dans les discussions qu'on a eues. Tu m'as dit aussi qu'à l'époque, quand t'es à Rome, ben voilà, parmi les artistes qui t'intéressent tout particulièrement, c'est assez, en fait, c'est assez inattendu quand on voit ta pratique d'aujourd'hui. Tu m'as parlé donc de Paolini, de l'Arte Povera en général, mais de Paolini en particulier, peut-être aussi justement. Bon, pour ce rapport à la fragmentation, rapport à l'histoire.
À la culture. Ouais. Moi, je suis partie dans le sud, quand on est suisse, pour l'Italie, c'est le sud, évidemment, et l'Espagne, parce qu'avant, j'étais en Espagne, à cause de la culture, en fait. J'étais très, très intéressée à l'histoire. Donc, effectivement, Paolini, pour moi, c'était un guide entre l'histoire et l'art contemporain.
Et cette dimension, je fais un petit pas de... On va revenir après sur ton parcours, mais je fais un petit pas de côté pour montrer ce tableau, qui est un tableau important dans ton travail, qui s'appelle donc 58 avant Jésus-Christ, qui appartient à Arao, qui est le musée d'Arao. Ils ne le mettent pas sur leur site, ça non plus. Il faut leur dire. Un tableau qui...
Il est entré il y a un mois et demi.
Pas plus que ça.
Non, ça a été long parce qu'il était abîmé, il a dû être restauré.
Ah, d'accord. Ce tableau, en fait, c'est pareil, c'est un paysage, mais qui est en fait une peinture d'histoire, c'est une peinture d'histoire déguisée en paysage, pour dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement 58 avant Jésus-Christ ? Je te laisse nous le dire.
Je vais vous raconter. Alors, c'est l'introduction de la guerre des Gaules. Si vous allez regarder, vous tapez « guerre des Gaules » sur Internet, sur Wikipédia, il raconte ça. C'est le premier chapitre écrit par Jules César. Donc, c'est en 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes qui occupaient le plateau suisse ont décidé de quitter ce plateau suisse pour aller s'installer à Bordeaux. Et ils se sont organisés pendant 3 ans. Ils ont récolté de la nourriture. Ils ont pris les femmes, les enfants, les animaux, tout le monde. Ils ont créé une immense caravane de 680 000 personnes. Et ils sont partis du côté de Genève pour traverser le Rhône, pour pouvoir descendre au sud et après partir à l'horizontale vers l'ouest. Et Jules César, à l'époque, venait d'être nommé gouverneur des Gaules. Puis il s'est dit, c'est l'occasion de faire un grand coup, c'est d'éviter que ce plateau suisse, enfin helvète, se vide, parce que c'est l'appel d'air pour les Visigoths qui était son gros cauchemar. Donc il a essayé d'interrompre cet exode, et sans grand succès, parce que ces helvètes étaient très motivés et têtus, donc ils ont continué à avancer. Mais les Romains derrière ont été appelés par la population locale pour essayer de les faire avancer le plus vite possible. C'était comme des sauterelles, quoi. Enfin, 680 000 personnes à nourrir d'un coup dans un petit... ça devait être assez l'horreur. Et alors, ils essayaient de les pousser. Et les Helvètes, ils étaient déjà en Gaule, donc. Et les Helvètes se sont dit, ah ben, on est plus forts qu'eux, on va se retourner, les battre, comme ça on aura la paix. Et en fait, ils ont fait ça, ils se sont retournés, ils ont attaqué les Romains, mais ils ont perdu la bataille. Et donc... ils ont dû rentrer chez eux. Et avant de partir, c'était quand même des Celtes, ces Helvètes, ils avaient mis le feu à aux douze villes qui occupaient ce plateau suisse. Donc, ça faisait longtemps que j'avais cette histoire d'exode et de réfugiés, toute cette idée de déplacement de population qui était assez cruciale pendant ces derniers 10 ans. Je me suis dit, ce serait intéressant de rappeler quelque chose de plus ancien. Et je suis pas très intéressée pour faire les personnages. Je me suis dit, je vais faire un paysage avec ça. Donc, il y a les 12 feux des 12 villes. Les Helvètes sont déjà loin. Et le coucher de soleil, qui est un dessin que j'ai fait par observation, ça a été dessiné depuis le Mont Vuilly. Ce qu'on voit, c'est le lac de Neuchâtel avec le coucher de soleil derrière le Jura. Ça, c'était un moment qui a existé. Mais ce coucher de soleil, il est exactement où, à quelques kilomètres plus loin, il y avait la bataille. On pourrait imaginer qu'il y avait cette bataille à ce moment-là, quoi, de Bibracte. C'est la fameuse bataille de Bibracte, pour ceux qui ont déjà entendu parler.
Donc c'était aussi une façon, voilà, comme on peut le voir dans tes autres travaux plus conceptuels de cette époque-là, aussi d'aller chercher dans l'histoire peut-être une allégorie des drames du contemporain, en fait. puisque c'est une voilà, c'est un exode dramatique de et c'est un exode forcé de gens qui ont dû retourner chez eux dans un endroit qui est une terre brûlée. Évidemment, dans ça il y a évidemment une résonance tout à fait particulière aujourd'hui d'un pays voilà qui est aussi un pays riche. Qui n'est pas vraiment un pays dont les gens... Enfin, c'est plutôt un pays vers lequel les gens vont, et de rappeler qu'il fut un temps où, au contraire, les gens souhaitaient partir, et que ça ne s'est pas toujours très bien terminé. D'un point de vue stylistique, c'est pareil, quand tu m'avais raconté aussi que quand tu as peint ce paysage, tu avais dû, donc, du coup, peindre le Jura, qui est pas la chaîne la plus célèbre enfin ou la plus appréciée en Suisse et du coup tu as eu quelques problèmes donc ça aussi je trouve intéressant de ce que ça raconte pour trouver le panorama au fond en fait voilà est-ce que tu peux dire
oui ça me ramène à ton introduction parce que le paysage de Konrad Wirth qui est donc réel et pas réel en même temps je me retrouve complètement là-dedans j'aime beaucoup que les choses soit comment dire intéressante formellement donc c'est vrai que j'ai tendance à distordre un peu la réalité mais j'aime aussi qu'elle soit référencée hein, que ce soit au dessin ou que ce soit à la géographie ou à la topographie donc j'ai fait ce dessin je pouvais pas inventer un coucher de soleil moi je pourrais pas aller me dire ok je vais faire un coucher de soleil sur le Jura puis je l'invente. Donc je devais y aller. Ça, c'est un peu bizarre, mais en même temps, je voulais quand même le Jura plus ou moins en entier. Donc, j'ai cherché des panoramas du Jura qui n'existent pas, à part par petits bouts suivant ce qu'on trouve. Il y a certains bouts qu'on trouve. Donc, j'ai un peu fait des photographies, mais maintenant, il y a cette super application où on peut demander le profil des montagnes avec les noms. Et alors, là, on peut photographier son écran et à la fin, on refait des espèces de pseudo-panoramas. Ça marche assez bien.
Donc, tu travailles là aussi avec une certaine technologie là-dessus quoi,
Oui, c'est, tout est construit. Ouais.
Alors, je reviens un peu en arrière.
C'est aussi complètement symbolique, parce qu'il y a le Rhône à gauche et le Rhin à droite. Hein. Ce qu'on voit, les deux autoroutes, là, ces deux fleuves... qui ferme le passage, en fait. Parce que ça, c'est le problème. C'était comment sortir de ce trou.
c'est pareil, on en reparlera sur la fin, parce que c'était ton point de vue sur le lac Léman. Tu m'as aussi dit que c'était évidemment, c'est un panorama qui est magnifique, puis c'est aussi un endroit qui est fermé. Aussi,
la Suisse est fermée. Hein. Voilà. On a, je pense que c'est vraiment si on vit là, on a cette double rapport un peu paradoxal entre l'amour du paysage et de la nature, mais aussi l'envie de dépasser et de voir ce qu'il y a derrière quoi, tout le temps. D'où les travaux aussi que vous avez vus précédemment.
Voilà, je reviens sur ton parcours. Du coup, on a dit que tu étais allé à Rome. Avant ça, tu étais en Espagne. Ça, je vais venir plus tard. Tu es resté combien de temps à Rome ? 5, 6 ans ?
Non, 12 ans.
12 ans, pardon. 12 ans à Rome. Après ça, tu vas à Berlin. Tu restes quelques temps à Berlin, tu rencontres Stéphane, et de là, vous revenez en Suisse par Lucerne.
Oui.
Et à Lucerne, tu fais notamment la découverte. Alors que, voilà, toi, tu avais un petit peu oublié la peinture suisse, disons, tu redécouvres à nouveau frais un immense peintre, c'est pareil, qui n'est pas très connu ici en France, voilà, qui est Hans Emmenegger, peintre lucernois, peintre de paysages. Tu m'avais dit que tu t'es senti tout de suite une familiarité, quoi. Enfin, quelque chose où tu étais en...
Oui, c'était une découverte extraordinaire.
Ouais. Mm-hmm. Et est-ce que tu veux en dire un peu plus sur Hans Emmenegger?
Je sais pas si on peut en dire grand-chose. Il faut vraiment... Je vous invite à regarder son travail. Il a une manière de synthétiser la lumière et l'espace qui est complètement unique. Et il est à la fois extrêmement précis et en même temps évocateur. Et son travail est très suggestif. Donc c'est dans cette tension de ces deux mondes qui se croisent hein, que je me retrouve complètement.
Et dans le même temps, à Lucerne, ça c'est, il y a le côté paysager, on va dire sensuel de ces peintures. Et en même temps, Lucien, tu découvres aussi un autre artiste, donc qui est un artiste contemporain, grâce là aussi à Stéphane, qui est Aldo Valcker, un artiste, ça pour la petite histoire qui est intéressante, c'était un artiste qui était, si je ne dis pas de bêtises, qui était électricien à l'origine.
Il était électricien.
Voilà, et qui fait un peu de la peinture de son côté. Un jour, il y a une exposition qui se monte à la Kunsthalle de Berne qui s'appelle « Quand les attitudes deviennent formes ». Il va frapper à la porte, voir Harald Zeman en disant « Mais moi, je fais ça ». Et Zeman trouve ça super et l'expose dans « Quand les attitudes deviennent formes ». Ça n'est pas crédité dans le catalogue, puisqu'il est venu plus tard, mais il a rajouté les peintures de Stefan Brandt.
De
Aldo Valcker. Il n'a pas peint que des chiens, je m'excuse, c'est juste que les images où j'ai le plus d'informations sont celles-là, mais c'est toujours un petit peu le même type de dessin qui oscille entre le pictogramme et quelque chose voilà, de peut-être de plus, je sais pas, expressionniste.
Alors moi, je ne l'ai pas du tout connu. Il était décédé quand j'ai connu Stéphane. Ouais. Mais Stéphane était un grand ami d'Aldo Valcker, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Et Stéphane a beaucoup soutenu son travail, elle a aidé à ce qu'il soit diffusé et tout. Donc, on vivait avec un Aldo Valcker à la maison, ce qui était vraiment formidable. C'est un très, très beau travail. Ouais.
Ouais. Et on retrouve, alors peut-être de manière un petit peu détournée, ça c'était tout premier tableau. Tu m'arrêtes, hein, si j'ai pas de bêtises.
Après Duchamp.
Après Duchamp, voilà, on est en 2012 et tu fais des modes d'emploi. Alors là aussi, j'ai pas une image qui est-ce que les gens. Oui, vous voyez quand même, oui, c'est vrai. Ça c'est montré. Ça, c'est justement dans la collection de Lucerne.
Non, ça m'appartient. Mais elles ont été montrées à Lucerne. Voilà, ça, c'est une photo qui a été prise à Lucerne, au musée. Ouais.
Voilà. J'essaye de refaire le chemin parce que tu m'as dit que donc t'as appris la peinture à l'huile quand t'es arrivé à Lucerne.
Mm-hmm, ouais.
Et ça c'était premier. Ça c'est des tableaux
qui ont. Alors quand j'ai commencé en fait à faire vraiment de la peinture à l'huile en 2004 ou quelque chose comme ça quand je suis arrivée à Lucerne en 2002 pardon. Ouais. Et ça, c'est les premières peintures que j'ai faites après justement avoir terminé le symposium. Et je voulais revenir à une peinture très lente. Et je me suis dit que ce serait intéressant. Bon, je suis un peu très intéressée au langage, donc aussi au mode d'emploi qui, pour moi, sont très intéressants par rapport à leur caducité, c'est-à-dire qu'ils. Il propose l'emploi d'objets qui, finalement, on ne saura plus utiliser dans pas très longtemps. Mais en même temps, pour rendre cet usage, la lecture de ces modes d'emploi qui parlent avec des images et non pas avec des mots, les graphistes qui se mettent à l'œuvre trouvent des systèmes de langage qui doivent être partageables dans le monde entier parce que ces catalogues, quand on achète un appareil de photo, c'est le même mode d'emploi dans le monde entier. Donc il y a une réflexion sur le langage, hein, sur le signe et sur le dessin qui m'intéresse beaucoup. Universalité de la possibilité de se comprendre à travers le dessin, je trouvais ça très intéressant. Donc j'adore les modes d'emploi, ça c'est à part ça, et je me suis dit ça, je vais commencer par faire une série de modes d'emploi. Donc je voulais pas peindre ce qui était dessiné, donc j'ai peint le papier. Donc en fait tout ce qui est foncé, c'est la réserve, c'est peint sur une toile crue qui est en lin. Donc la couleur foncée, ce qui a été imprimé sur le papier blanc, est réservé dans la peinture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc j'ai peint le blanc avec une espèce d'aura, comme si c'était illuminé. Voilà.
Voilà. Mais du coup, le côté un peu justement sali du papier, c'est un effet de peinture.
C'est fait pour la lumière. Ouais. C'est de la lumière en fait. Ouais. Peinte.
C'est pas qui. Quand tu es revenu aussi de ce, enfin, quand tu découvres un petit peu toute cette histoire de Duchamp, donc ça va t'occuper. C'est vrai que voilà, ça t'a occupé un certain temps pendant lequel tu n'as pas fait. Tu étais un peu éloignée de l'art.
Surtout d'une pratique de peinture, je me suis éloignée parce que c'était un peu prenant comme travail.
Ouais.
Mais je ne dirais pas que ça m'a éloignée de l'art, au contraire. Je pense que ça m'a vraiment plongée dans l'art.
Hein. Alors. Ça t'a éloigné de l'atelier, on va dire ?
Oui, de l'atelier, voilà. Absolument. Ouais.
Et c'est un moment où t'es déjà enseignante à l'École des Beaux-Arts de Genève.
Absolument. Voilà. Mm-hmm.
Et puis donc, voilà, après tu te dis qu'il est temps de te remettre à la peinture. Et tu m'arrêtes aussi, si je me trompe dans la chronologie, mais tu vas partir aux États-Unis faire des recherches justement sur ces peintres qui ont commencé à t'intéresser autour de Duchamp. Donc j'ai commencé par cette bande-là. Milton Avery, Arthur Dove, Joseph Stella ou Marsden Hartley. Est-ce que tu racontes un peu ce voyage ?
Alors, avant de faire le voyage, j'ai fait une recherche iconographique en Europe, enfin à la maison.
Ouais.
Et ensuite, j'ai pris une année sabbatique, et un semestre sabbatique plutôt, et j'ai passé 6 mois à l'atelier à réinventer complètement mon langage pictural après avoir fait cette recherche à QI. Je suis partie à Berlin et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'est après que je suis partie aux États-Unis. J'avais déjà posé tout le travail, mais je suis partie parce que je voulais voir les œuvres en vrai. Mmh. Donc j'ai fait une liste formidable de 33 musées entre Washington et Boston. Et dans des musées un peu périphériques d'université et tout ça, où on peut facilement savoir ce qu'il y a dans leur collection, parce que leurs sites internet sont très très bien faits. Et donc on a la possibilité de construire un trajet de visite de manière assez précise. Et en 15 jours, on a vu toutes ces peintures que moi j'avais jamais vues en fait. Mmh. Je connaissais pas du tout avant, parce que quand c'était pas des peintres dont j'avais l'opportunité de les voir.
Il y a toujours un peu ce dessin qui est facile donc une illustration du groupe Dada à New York. On voit un Duchamp en train de jouer aux échecs et une partie des peintres qu'on vient d'évoquer. Donc il y a Echelmus qui est ici, Joseph Stella qui est sur son fauteuil et Hartley qui est au fond. Donc c'était un groupe de peintres qui font des paysages, mais qui sont associés justement au groupe Dada.
C'est-à-dire qu'ils ont été associés au groupe Dada, je pense, par la suite, hein, comme un peu une caricature. Hein, mais eux, je ne pense pas qu'ils se considéraient vraiment comme dadaïstes. Hein. Et c'est des générations un peu différentes, parce que Alchemius est né en 64, mais Marsden Hartley en 85. Hein, donc il y a quand même pas mal d'écart entre eux. Par contre, les jeunes, ceux de 85-87 comme Duchamp, Marsden Hartley, Avery, ils étaient des fans de Alchemius et de Ryder. Et Winslow Homer, c'est un peu un personnage à part. Et Blacklock, c'était aussi quelqu'un qui faisait partie de l'imaginaire collectif de ces peintres-là. Mais les jeunes rendaient plutôt hommage aux plus âgés. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils ont fait leurs portraits mutuellement. Enfin, ils ont... Et c'est aussi quelque chose que... C'est ce que j'ai utilisé pour poser ce langage pictural en 2011-2012. C'est que j'ai fait le portrait de ces 8 personnes, voilà. De ces 8 peintres.
Qui ne sont pas présentés dans l'expo ici. Non. Mais qui sont de la même facture des
portraits de femmes.
Voilà, et qui sont donc des portraits de face, comme ça, de tout ce panthéon que tu t'es constitué.
Voilà.
Alors, c'est une école, je ne sais pas si c'est une école, mais c'est assez reconnu, disons, ces paysagistes new-yorkais. On trouve un petit peu dans les livres d'histoire. Il y a notamment un livre sur l'art américain où il y a un article de Barbara Rose sur cette génération d'artistes qui dit qu'au fond, de tête, ils ont souhaité être modernes sans avoir jamais renié leur américanité, quelque chose comme ça. Donc une façon de vouloir parler sur la scène de l'art international tout en restant dans des paysages très 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 locaux, très américains. J'imagine que ça résonne aussi.
Ça résonne beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup estimé la géolocalisation. Et En tant que Suisse, on est toujours un peu périphérique, surtout si on habite à Cuy. Et je trouvais un écho avec ces personnes qui vivaient dans un monde. Il faut s'imaginer New York au début du XXe siècle. C'était vraiment c'était pas ce que la position centrale de l'art contemporain qu'on a connu par la suite. Donc cette sensation d'être en dehors, d'être hors du coup, d'être dans une périphérie et de défendre ça d'une certaine manière, ou pas de le défendre, mais d'en tenir compte et de ne pas le renier. Ça, c'était quelque chose qui faisait écho en moi. C'était cette position de se dire, OK, c'est comme ça, c'est bien, ça va aussi, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de faire référence à un centre.
Je reviens en arrière maintenant. On a encore un peu de temps. En fait, ça va. Ouais. Tu exposes ici justement des dessins qui sont là. Donc ça, c'était c'est des photos que j'ai prises dans ton atelier, qui permettent d'introduire une autre histoire dans ton parcours, qui est justement tes années en Espagne, à Barcelone. Mm-hmm. Puisqu'en fait, ta véritable formation, d'abord, c'est une formation de graphiste.
Oui.
Je vais revenir sur les dessins après. Et tu as notamment travaillé pendant un temps dans l'atelier de Pedro Torrent, dit Perret.
Mm-hmm. Il y a un R en trop.
Il y a un R en trop, excusez-moi, dans le Perret ou dans le Torrent. Perret. Je le modifie après, promis. Et bien justement. Est-ce que tu veux nous donc ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment c'est le design graphique de Perret, c'est pas vraiment le design qu'on enseigne en Suisse, on est loin du rigorisme.
Bon, j'ai fait mes études aux arts décoratifs de Genève, hein. C'était pas le rigorisme suisse.
C'était pas Zurich.
Non, il y avait une méthode d'enseignement qui était liée au Bauhaus dans la propédeutique. Qui était, à part ça, c'était des études, les deux premières années, absolument formidables. Il n'y avait pas encore d'ordinateur, donc c'était du bricolage, c'était super. Mais après, c'était pas si tendu que ça. C'était pas Zurich, c'était pas, même Lausanne, je pense, c'était beaucoup plus strict. Mais voilà, oui, c'était les années 80, et moi, il y avait une revue qui s'appelait Actuelle, et qu'on lisait beaucoup. Et dans cette revue, il y a eu un article qui est paru sur Perret. Et je me suis dit, ah, c'est super, moi, je m'ennuie un peu à l'école. Je me suis dit, ah, je pourrais faire un stage chez ce type. Donc, je suis partie à Barcelone avec mon cartable pour sonner à sa porte, pour me faire engager. Il m'a pris un mois. Après, je suis retournée un autre mois. Et finalement, j'ai été travailler chez lui pendant 2 ans et demi, je crois.
Et justement, c'est un graphisme qu'on peut qualifier justement de qui est fait aussi de collages, de citations, d'emprunts.
Complètement.
Voilà. Ouais. Et donc j'imagine que dans l'atelier, enfin tu m'avais raconté d'ailleurs justement qu'il y avait qui faisait les fonds, qui faisait les collages, etc. Comment c'était
non, c'était pas si séparé. Lui faisait la plupart des illustrations, nous on faisait surtout, on l'aidait, ou on faisait la typographie surtout, on faisait des logos et des choses comme ça. Mais c'était un atelier, c'était chez lui, donc il faut pas imaginer un truc super pro. et voilà, c'était surtout très très vivant parce que Barcelone à ce moment-là explosait. Et il y avait beaucoup d'événements, de choses qui se passaient, de gens qui venaient, intéressants, de trucs. Enfin, on avait l'impression d'être dans un espèce de tourbillon. C'était chouette.
C'est fin années 80.
Ouais, non, c'était. Je pense que j'ai été la première fois en 85, et puis j'ai fini par aller. Après, j'ai quitté Barcelone en 91.
Et je reviens à ça parce que du coup, ce qui est intéressant quand on découvre la première fois, on découvre tes dessins, c'est que quelque part, c'est un. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en page dans tes croquis. C'est vraiment c'est juste si vous les avez vus, c'est juste des notes avec marqué nuages gris, ciel bleu avec des plus pour indiquer l'intensité des couleurs. On n'est pas du tout sur et c'est donc des dessins d'observation que tu fais aussi depuis chez moi
ouais.
Mais que tu synthétises comme ça comme un croquis de peut-être de review ou de mise en page de quelque chose.
Peut-être que, enfin moi, je n'ai pas tellement conscience de ça, c'est comme ça que je dessine. Mais par contre, quand tu parles de mise en page, effectivement, je pense que ce qui m'intéresse, c'est la position des éléments, la relation des éléments entre eux. Voilà. Donc forcément, il y a une... comment dire, la mise en page devient très importante. Quoi. Mm-hmm. C'est la construction de l'espace.
Et est-ce que c'est quelque chose où on peut voir aussi, donc dans cette, ça c'est une série que tu as fait qui est particulière, qui est donc un chemin de croix, donc qui était une commande. Voilà,
pas une commande, c'était une invitation.
Pardon, une invitation de, dans une...
Non, personne ne m'aurait commandé un chemin de croix, mais...
Ah, pourquoi pas.
C'était une invitation à faire un travail dans un petit festival qui s'appelle
L'Art
en Chapelle, ou ouais. Un truc comme ça.
Donc, c'est une vue de l'expo à Glarus. Mais ça a été exposé du coup dans une église.
Oui, la Planée, dans le Doubs.
Voilà,
dans le Haut Doubs.
Et puis, donc, tu as fait. Donc, il y a 14 stations et qui sont là aussi. Donc, c'est toujours. Il n'y a pas de figure. Ça, on va y revenir plus tard.
C'est un chemin de croix protestant. C'est un.
Mais par contre, voilà, d'une station à l'autre, on a différents états de la journée.
Oui, c'est je me suis dit que cette montée au Golgotha pouvait s'être déroulée en une journée, hein, depuis le jugement jusqu'à la déposition. Et donc, tout se déroule depuis le matin. J'ai divisé le travail en 14 moments avec un départ aussi picturalement intéressant parce qu'il n'y a pas de saturation dans les couleurs du matin ni dans celles du soir. Enfin, bref. On peut vraiment avoir réfléchir à beaucoup de choses picturalement quand on développe un paysage dans le temps et la lumière, avec le développement de la lumière.
Mais c'est pareil, là, pour le coup, je reste un peu sur cette idée, hein, mais c'est toujours la même construction, la même composition, enfin la même...
Alors, ce qui est stable, aussi, c'est la croix.
Ouais.
Et puis l'horizon, chaque station monte.
Ouais.
Descend, puisqu'au début, il n'y a que de la terre et à la fin, il n'y a plus que du ciel. Donc, l'horizon descend à chaque station. Mais à part ça, le cheminement, il est différent. Tous les paysages sont différents. C'est comme si on se promenait dans la montagne.
Ouais. Alors, on arrive un peu à la fin de ce parcours de choses. Je voulais peut-être finir sur des peintres qui sont... là aussi, qui sont des peintres suisses, mais qui ne sont pas forcément liés à un lieu en particulier. On a vu des peintres étrangers qui peignent de l'aimant ou des peintres américains qui peignent leur patrie. Mm-hmm. On a aussi des peintres qui ont fait des Traumlandschaft, des paysages de rêve, dont notamment Albert Traxel, qui est un architecte à la base genevois, mm-hmm. qui a réalisé quelques peintures qui étaient aussi montrées, si je ne m'abuse, dans Modernité Suisse, au musée d'Orsay. Et ici, Giovanni Giacometti, donc ça, c'est le lac de Lugano, le père de Alberto. Est-ce que, voilà, c'était plus peut-être pour aller aussi vers dans les paysages que tu fais, il y a aussi des paysages qui ne sont pas forcément identifiables à un endroit en particulier, ou est-ce qu'il y a de temps en temps tu
je pense que je suis assez liée à la... J'ai pas beaucoup d'imagination. Et donc j'ai toujours un lien avec quelque chose. Par exemple, le chemin de croix, j'ai passé un jour dans le Jura et tous les paysages sont issus de cette journée du Jura. Quoi. Mm-hmm. Mais après, je suis pas retournée sur place aller faire des dessins. Mais disons que c'était quand même ce lien-là qui était présent quand j'ai élaboré l'environnement. Et dans les autres, c'est toujours lié avec un endroit et un point de vue particulier, existant, réel. Quoi.
Mais sur lequel tu peux t'accorder quelques
minutes. Ah, complètement. Ouais, c'est très lié. Après, je pense que c'est plutôt une rencontre. Mm-hmm. C'est faire connaissance et après, je peux en faire un peu ce qu'il faut que je fasse. Quoi. Mm-hmm.
Ce qui me permet peut-être pour
en plus. Mais par exemple, Traxel, autant lui, justement, il élimine tout ce qui est anecdotique. Autant Giacometti, il garde les maisons, il y a encore les éléments reconnaissables. Et moi, je prends des décisions beaucoup plus drastiques. Je garde jamais les,
Oui.
Ce qui est de l'ordre du construit ou de la présence humaine, ça ne m'intéresse pas tellement.
Alors, c'est une transition parfaite, justement, pour la dernière diapositive. Je réserve un peu le suspense, mais justement, il n'y a aucune. On est dans un temps géologique dont mm-hmm. on travaille. Mm-hmm. Il n'y a aucune construction, aucune mm-hmm. trace humaine, à part de la fumée, éventuellement, mm-hmm. Qui est vraiment une trace infime. La façon même dont, justement, tu peux poser ces cadres-là, on a beaucoup dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre du hublot aussi, de quelque chose qu'on verrait depuis un point de vue qui n'est pas. Ou qui pourrait être la lentille d'un microscope, peut-être de quelque chose, d'un moyen d'observation, mm-hmm. Et ce qui nous a fait aussi nous intéresser à des travaux de ce type, mm-hmm. qui sont des de ce qu'on appelle le space art, notamment c'est le plus connu qui était Chesley-Bonestell, qui a fait donc ces vues d'artistes de planètes qu'on a évidemment jamais explorées, ou ça des peintures de la formation de la Terre. C'est une transition parce que voilà, on sait que c'est la prochaine destination
du matin.
Du matin, qui va être dans une exposition qui va confronter des peintures justement de space art avec des vues, avec des paysages suisses. Une exposition curatée par Gilles Gasparina, mm-hmm. très bonne commissaire d'expo. mais ce lien, voilà, en fait, quand on en avait parlé, c'était justement quelque chose qui t'intéressait, peut-être cette façon.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la situation temporelle qui s'étire. Si j'évoque 58 avant Jésus-Christ, c'est parce que ça existe encore aujourd'hui, à travers tellement d'autres choses. Ça existe physiquement dans le paysage, mais ça existe mentalement dans la mémoire, et ça existe actuellement dans ce qui nous arrive. Donc cette dilatation du temps, effectivement, elle comprend parfois autant le futur que le passé. Et j'ai souvent cette impression qu'on a accès à des temps différents, en fait, qu'on n'est pas seulement ici maintenant, qu'on est ailleurs, qu'on est dans nos souvenirs, qu'on est dans nos espoirs ou nos désirs, et que tout est un peu compressé quelque part, mais que c'est aussi et peut-être le cadre m'aide à ça, c'est que c'est un passage possible toujours. On peut être là, mais on peut aussi traverser le cadre et aller ailleurs. Et je trouve que c'est une possibilité encourageante.
Eh ben, c'est super. Moi, j'ai fini là. Après, j'ai des petites questions, mais l'idée c'était peut-être aussi d'ouvrir ou je sais pas, si vous en avez marre. Ok. Alors, justement, non, c'était déjà une. Ce que je trouvais chouette, ce que je trouve super dans l'exposition, c'est que évidemment, tu montres tes travaux, tu montres aussi les choses qui te, tes obsessions, donc un peintre que tu as pu collectionner, Elchimus, ou aussi, je l'ai dit tout à l'heure, tu as commencé par faire un panthéon. Tu as eu besoin de peindre des portraits d'artistes auxquels tu te référençais. On en a parlé, on a cité une bonne partie. Et évidemment, dans tous ceux que j'ai montrés, il n'y a pas de femme. Et ici, justement, c'était aussi une façon, je crois, de ta part, de vouloir rectifier peut-être aussi cette façon de transmettre l'histoire de l'art, que de montrer aussi un panthéon de femmes artistes.
Oui, tout à fait. Alors, donc, dans mon choix d'utiliser les grandes catégories du 19e siècle, il y avait ce désir pour moi de me séparer du problème du sujet. Donc, j'avais la catégorie portrait que je voulais investir. À part justement ce panthéon de départ, j'ai très vite décidé que ce serait peut-être un peu ma pratique plus militante, et que j'allais donner une visibilité sous forme de peinture à des artistes femmes qui m'entourent. Donc c'est des femmes avec lesquelles j'ai travaillé, ou j'ai fait des expositions, ou avec lesquelles je discute. On échange des choses, et c'est aussi un hommage à l'amitié.
Est-ce que justement, alors, par rapport à ça, tu montres aussi tes travaux de Elchimus. Mm-hmm. Tu as parlé tout à l'heure que tu as des peintures d'Aldo Valcker. Est-ce que tu as aussi des travaux d'autres artistes
Oui, chez moi.
Ouais. Mm-hmm. Et qui constituent... Tu as un esprit un peu de collectionneuse aussi?
Non, je n'ai pas du tout un esprit de collectionneuse, je crois. En fait, en soi, je ne suis pas quelqu'un qui garderait des trucs ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime bien vivre avec des œuvres, quoi. Je pourrais pas imaginer vivre. Donc ma maison est pleine de trucs, ça c'est vrai. Et j'achète des choses à des amis ou je reçois des choses et voilà, et je vis avec. Donc j'ai de la place. Ça.
Qu'est-ce que tu as d'autre justement à part? Enfin, ça va justement de Alchemius à des choses plus.
Disons qu'Alchemius, c'est. J'ai un Joseph Stella et aussi Alexandre Perrier ou des artistes suisses un peu aussi classiques ou comme ça. Mais pas grand-chose. Ça, c'est des choses qui sont plutôt inabordables aussi comme prix. On ne peut pas se permettre d'en acheter tous les jours. Les Alchemius, le gros avantage, c'est que c'est un artiste qui a fait. Les peintures qu'on a achetées, elles ne sont pas très chères, donc on peut se les offrir. Et autrement, la plupart quand même des œuvres que j'achète, à part le marché aux puces, c'est des amis. Donc c'est des coups de cœur, des artistes contemporains ou contemporaines qui sont actifs autour de moi.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Peut-être que dans la salle, il y a des questions, peut-être à la fois pour Caroline et pour Paul. Le jour descend. Hein, je pense que vous aurez apprécié un peu la dramaturgie. Ouais. C'est-à-dire qu'on a commencé en pleine lumière et puis là le jour descend. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'expo, vous pouvez la voir maintenant dans un autre état aussi. Qui fait aussi écho à tout ce que vous venez de dire sur ces questions de lumière et de paysage. Je cède volontiers le micro si vous souhaitez poser une question.
Parce que dans la présentation, tu montrais ce grand panorama de la bataille de 58 avant Jésus-Christ. Et moi, je me demandais deux choses. Est-ce que c'est un panorama qui est des dimension similaire à celui qui est dans l'expo actuellement? Et question 1. Et question 2, est-ce que ces deux œuvres qui sont symboliquement et physiquement au sens relié, dans la mesure où ce seraient des points de vue connexes, enfin reliés physiquement dans le paysage réel?
Alors, les dimensions, il est plus petit, 58 avant Jésus-Christ, il est formé de 10 panneaux de 80 par 80. Donc, il fait 8 mètres de long et 80 de haut. Et puis, les paysages, comme j'ai besoin de paysages réels pour faire mes trucs, ben, c'est un peu des paysages que j'ai autour de moi. Donc, c'est 58 avant Jésus-Christ, c'est le Vuilly, et le Nap, c'est une montagne qui est entre le canton de Lucerne et le canton de Berne. C'est là que je suis montée pour faire le panorama. Ça n'a pas vraiment à voir, si on veut. C'est pas super important, en fait. Enfin, c'était fondamental pour le choix pour le 58 avant Jésus-Christ, parce que c'est vraiment là que vivaient les gens qui sont partis. Mais pour la situation du matin, je voulais faire quelque chose d'un peu du début du monde ou de la fin du monde, mais il fallait simplement que j'aie beaucoup de place, que ce soit qu'il y ait une grande distance et qu'on voit quand même une limite. Et depuis le Nap, on voit, c'est presque la frontière du pays, quoi, c'est une montagne. Parce que la France est derrière le Jura, est derrière les Alpes, il y a l'Italie, ensuite l'Allemagne. Donc toute cette ligne de montagne qui parcourt le panorama du matin... Elle est très lointaine, mais en même temps, elle est là. Quoi. Elle est beaucoup plus basse.
Bonjour. Dans la liste des peintres américains, moi, il y a un peintre que j'adore. Oui. Et je me demandais s'il était dans ce même groupe. C'est Thomas Hart Benton.
Ah oui, mais il n'est pas dans le groupe.
Il
n'est
pas dans le groupe, d'accord.
Non.
C'est des paysages qui sont assez semblables.
Oui, oui, un peu, c'est vrai. Mais je pense que j'ai fait un choix assez je dirais, subjectif et avec l'estomac. À part ce que j'ai éliminé tous les post-impressionnistes, mais pour le reste, et voilà, et c'est, ça s'est fait comme ça. Mais il y en a d'autres, il y a beaucoup de d'autres peintres.
Parce que
de
je
cette...
pensais au nuage qui fait.
Ouais, oui, absolument.
Merci, c'était absolument passionnant. Et moi, je suis frappé par le côté incroyablement référencé de cette peinture. Il y a des tas de choses que vous avez montrées là auxquelles je n'avais même pas pensé, mais je pensais aussi à Perrier, dont j'oubliais le nom et dont vous me confirmez, hein, c'est ça, en fait, que vous l'avez regardé aussi. Et au-delà de toutes ces références visuelles, dont j'avais pas du tout pris la mesure que vous les aviez, mais vraiment construite comme cela, enfin en constituant cette espèce de travail préalable au retour à la peinture et en allant voir ces peintures sur place. Je trouve que c'est un processus créatif absolument fascinant. Mais au-delà de ces références formelles, visuelles, est-ce qu'il y a aussi une autre influence, alors formaliste mais pas stylistique en quelque sorte? Je pense à la question du rythme, par exemple, le rythme, les symétries qui sont très très présente très fort dans votre travail et qui, moi, me font penser à quelque chose qui a beaucoup intéressé Hodler aussi, qui est la rythmique. Et en tant que Suisse, je pense que vous êtes au moins aussi sensible à tout l'héritage de la rythmique dalcrozienne, en fait. Est-ce
tout
que ce
fait.
Sont des choses qui vous ont touché, ça?
Oui. Alors là, je dirais que c'est absolument ça. Moi, on m'a fait étudier la musique quand j'étais un enfant. J'ai jamais aimé jouer d'un instrument. Par contre, j'ai adoré les 3 ans de solfège que j'ai fait avant de commencer à jouer. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, s'il y a bien quelque chose qui m'intéresse, c'est le rythme et l'espace et la danse. Donc, tout ce rapport avec ces... Quand Paul parlait de mise en page, c'est pour moi comme un espace de mouvements, d'éléments qui se rencontrent, qui pourraient se choquer, mais qui ne se choquent pas, ou oui, ou pas. Enfin, mais il y a exact cette potentielle rencontre entre des corps tout le temps. C'est juste.
C'est la danse des yeux, quoi. Vraiment.
Et sur ces questions de rythme, en fait. Je pense pas trahir ton intimité, mais parce que tu l'as dit, ton papa qui était là il y a 3 jours est un joueur de jazz, de trombone,
oh.
New Orleans.
Oui. Ouais.
Et donc
mon apprentissage forcé de la musique.
C'est ça.
Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence vraiment intéressante. En fait, je me posais la question. Vous parliez du fait que vous êtes monté sur une montagne pour faire un panoramique. Et je me posais la question de l'importance, en fait, de l'expérience physique en tant que Suisse par rapport aux montagnes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous importe dans votre quotidien ?
Énormément. Je pense que je suis très redevable à ma mère, qui était une grande montagnarde avec laquelle j'ai fait beaucoup d'escalade, parce que j'utilise, et ça c'est incroyable, parce que je l'utilise encore aujourd'hui, la sensation... Du 4 heures du matin, on partait pour monter à pied pour pouvoir faire de l'escalade. Il faut se lever tôt, donc on part dans la nuit. Et puis, on monte au moment où la lumière se lève. Et cette vision qu'on a à un rythme de marche, qui est vraiment lent, parce que je pense qu'en plus, un enfant a des petites jambes, donc je ne sais pas, mais j'imagine, mais je me souviens vraiment. Et ce n'est pas très... clair dans ma tête. Par contre, la sensation physique est extrêmement claire. Et j'y fais appel tout le temps. Il y a ça et le lac, avec le vent et l'eau, qui sont aussi quelque chose de très physique, comme appel pour savoir comment peindre ça. Donc, c'est pas du tout visuel, en fait. Bizarrement, c'est pas, j'utilise pas du tout des souvenirs visuels.
Pardon, c'est la molle du lac qui est une espèce d'état, de sorte d'apesanteur qui prend les gens qui vivent à Cuilly, de fait.
C'est juste. C'est un peu un gag, mais c'est vrai que c'est un peu fascinant. Comme le paysage est tellement prenant,
ouais,
qu'on peut avoir tendance à se laisser aller et puis ne plus rien faire et regarder ce qui se passe. Quoi.
Oui, enfin, ma question, c'était...
D'où l'expression « la molle du lac ».
Ma question était, est-ce que cette molle du lac est présente dans les peintures, de fait ?
Non, je ne pense pas du tout.
Oui, encore une fois, il y a un effet de sidération. C'est vraiment magnifique. Même le balcon du monde, hein, aussi, depuis Chèvre, etc. Mmh. Enfin, mais il y a aussi, comme tu le disais, en fait, on voit le début de la vallée vers l'Italie. C'est aussi un endroit qui appelle aussi au départ, quoi.
C'est l'appel du large.
Ouais, exactement. Bah, qui est bizarre vis-à-vis des montagnes, mais. Voilà.
Ah, mais ça, c'est un rêve, quoi. Comme au fond, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est de quitter cet endroit, quoi. Enfin, ça a été mon cas pendant jusqu'à que j'arrive, que je puisse partir à 18 ans. Mais je pense qu'on n'est pas très sensible à la beauté visuelle quand on est un enfant. Et ces montagnes sont quand même assez imposantes. Hein. Ça peut être aussi très déprimant, la montagne.
Une dernière de moi. Ouais, non, parce que vous disiez tout à l'heure que quand vous avez commencé à peindre, vous avez choisi des modes d'emploi pour vous débarrasser de la question du sujet, et d'où aussi le choix du portrait. Et là, on parle beaucoup de la montagne, on parle beaucoup du lac, et on parle beaucoup de ce qui semble être des sujets. Et la question que je me posais, c'était se débarrasser du sujet pour se concentrer sur quoi ?
Je pense se débarrasser du sujet, ça veut dire utiliser ce qu'on a. C'est presque aussi simple que ça. C'est que ça, c'est ce qui est donné, quoi. C'est comme le fait de choisir de faire les dessins au moment où il se passe quelque chose, c'est parce que c'est donné. Et en fait, c'est ça. C'est ne pas penser que la vision artistique est liée à un choix de sujet, mais qu'on peut l'atteindre ou atteindre quelque chose, une poétique. En fait, moi, je pense surtout à la poésie. On peut atteindre une poétique à peu près n'importe où. Mais moi, j'habite à Cuilly, quoi. J'aime beaucoup discuter de la peinture, et mon choix n'est que pour moi, quoi. J'ai beaucoup d'intérêt et de curiosité pour chaque position artistique, parce que je pense que c'est vraiment infini. Et je suis pas du tout en train de défendre quelque chose, hein. C'est au contraire dans la pluralité des visions que se trouvent, enfin, des ouvertures et des découvertes incroyables, quoi. Donc c'est vraiment dans le fait de pouvoir enseigner, de passer 15 ans à discuter d'art et de peinture avec des collègues et des étudiantes, c'est un vrai cadeau, quoi.
Alors, en fait, j'aurais plein de questions, mais je vais revenir à quelque chose de très basique. J'étais venue visiter la semaine dernière l'exposition, et on était plusieurs à ne pas vous connaître, à vous découvrir. Et la sensation qui nous a imprimé tous, c'était quand même le bonheur et le plaisir. Et je voulais voir si, voilà, quel était votre rapport au bonheur, au plaisir. Il paraît évident. Et je voulais savoir si vous étiez tombée dedans quand vous étiez petite, si c'est quelque chose qui était intentionnel dans votre démarche. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un fil rouge dans votre pratique, dans votre curiosité, d'être menée par le désir et le plaisir qui finalement s'est nourri de plein d'éléments, de connaissances, de pratiques, mais qui persiste et qui perdure, quoi. Je voulais savoir si vous en étiez consciente et s'il y avait une part d'ombre chez vous.
Non, je pense que... je pense que le plaisir, pour moi, il est plutôt dans la possibilité de chercher, de découvrir quelque chose. Alors, ça demande une grande passivité, en fait. Et c'est pas super simple, cette passivité. C'est pas très... on vit pas ça forcément toujours très bien, parce que c'est un peu à contre le monde, quoi. Mais c'est comme ça. Mais il faut être très très silencieux, passif et attentif pour que les choses arrivent. Et donc d'un côté, j'aime bien ça. D'un autre côté, effectivement, c'est pas toujours. On n'est pas toujours sûr que ça va marcher. Enfin, je sais pas ce que vous voyez. Ouais, ce que je veux dire. C'est une double chose. Effectivement, mon désir est de proposer quelque chose qui soit de l'ordre de la vision et de l'espoir. Je veux pas provoquer le sort en mettant en place des trucs négatifs. Il y en a déjà bien assez, quoi. Donc, je veux absolument atteindre et toucher quelque chose qui est de l'ordre de la vie et de la vision, avec un potentiel vital réel. Mais pour faire ça, j'ai pas vraiment une idée. Je dois vraiment avoir une soumission à une passivité qui est pas forcément de l'ordre de quelque chose de très simple.
Et autre lien que vous avez fait ou pas, moi je l'avais fait avec le Japon, que je connais très très peu, mais j'avais pensé à Murakami avec votre façon de préserver un souvenir, de faire ressurgir en passant par des filtres finalement de la mémoire, de l'écrit, et ça m'a fascinée. Et puis je retrouvais dans certains graphiques, là, dans la fumée des 12 villes, dans les coloris, quelque chose des estampes japonaises, et dans vos pratiques, mais sans connaître le Japon, donc c'est vraiment gratuit, mais j'avais quelque chose de cette philosophie qu'on nous enseigne un peu, vulgairement, et je me demandais quel était votre lien, si vous l'aviez fait, et pourquoi vous n'étiez pas allé au Japon si vous ne l'avez pas fait.
Alors, je suis allée au Japon, mais pas du tout pour... j'ai accompagné mon compagnon qui avait une exposition là-bas une fois, mais il y a longtemps. Mais j'ai un grand amour pour l'art populaire, l'art graphique, pour la bande dessinée. J'en ai lu des kilomètres. Et donc, je suis très liée aux formes de l'art populaire. Et alors, ça ressort, je l'utilise, c'est sûr. J'aime ça. Et je m'en sers. Donc, ça, c'est certainement... ça fait partie de mes outils.
Bonjour et merci. Bonjour, hein. C'est passionnant. Vous avez dit que vous avez éliminé complètement le personnage humain de vos tableaux. C'est vrai qu'on n'en voit pas, mais vous faites des portraits.
Oui.
Donc le personnage humain ne peut exister que si c'est un portrait. Enfin, ça me questionne. Voilà.
Ça m'a banni du rangement. Non, je sais pas comment, mais je pense que pour moi c'est plus simple effectivement d'avoir accès à un autre univers à travers un portrait, à travers quelqu'un, à travers les yeux, le dialogue, la discussion que je peux avoir quand je fais le portrait, parce que je fais des dessins et je discute avec la personne évidemment. Donc j'ai une vraie relation avec cette personnalité au moment où je la dessine, comme j'ai cette vraie relation avec le paysage. Alors peut-être c'est ça, mais effectivement ça me permet de faire des compartiments comme ça.
Merci vraiment, un immense merci à tous les deux.
Merci à Paul.
D'être venus l'un de Bienne, l'autre de QI pour se retrouver à Ivry dans cette exposition qui s'achève le 17 décembre. Parlez-en autour de vous, à vos amis, aux artistes autour de vous. Et merci pour toutes ces questions aujourd'hui. C'est pas si souvent. Et merci pour votre présence et à très bientôt.
Merci Claire.